Je vous apporte le message numéro 9, intitulé « Un humble roi, chevauchant un âne ». Ce message est adressé à la communauté du royaume, tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus et son royaume. C'est un message audio qui va accompagner le message écrit portant ce même titre. Un humble roi chevauchant un âne. Le roi entre dans nos villes aujourd'hui avec grande pompe et parfois dans des voitures décapotables précédées et suivies de convois. Même au temps de Jésus, ils auraient pu le faire en chevauchant des chevaux tout blancs. Cependant, Jésus entra à Jérusalem sur un âne. Mais ici, c'est le Dieu d'Israël lui-même qui retournait à Jérusalem pour devenir roi d'Israël et du monde entier. C'est probablement la seule fois où nous voyons Jésus ouvertement dans son ministère accepter les titres de roi, accepter d'être appelé roi et en train de se comporter comme un roi. Avant cela, notre Seigneur s'enfuyait toujours dans les montagnes chaque fois que la foule voulait de force faire de lui roi. On nous dit cela en Jean chapitre 6, versets 15 et 25. Mais en se rendant à Jérusalem, cette fois-ci, ça sera la dernière fois, ça sera son dernier voyage vers Jérusalem. Et c'est à ce temps-là qu'il a revendiqué légitimement le trône de David, longtemps promis à ses descendants, auxquels il appartient en tant qu'héritier légitime. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Vraiment, une histoire dans les évangiles. L'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est un événement d'une telle importance que tous les quatre évangélistes ont choisi de les relater. Que ce soit Matthieu, nous lisons cette histoire à Matthieu chapitre 21. À Marc, nous le lisons à Marc chapitre 11. Luc, nous lisons cela en Luc chapitre 19. Jean parle de cela au 12e chapitre. Le prophète Zacharie, des siècles précédents, l'aurait déjà prédit. Qu'est-ce qu'il a écrit? Qu'est-ce qu'il a dit au peuple? Réjouis-toi avec éclat, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Fin de citation. Si nous revenons au temps précédent, son entrée à Jérusalem, on nous dit que le Seigneur Jésus a dit à ses disciples d'aller à Bethphagée. Il les envoya, disant qu'ils devaient entrer à Jérusalem dans peu de temps et que ses disciples devaient lui amener les moyens de transport. Il a dit, allez dans ce village voisin. Vous trouverez une ânesse attachée à un anneau avec elle. Détachez-les et amenez-les moi, leur dit-il. Matthieu chapitre 21, verset 2 à 3. Le peuple de Dieu, il semble ici qu'il les avait apportés. Certains disent qu'ils avaient apporté des animaux. Ça, c'est selon certains commentateurs. Les disciples ont amené un âne et ils ont amené un anneau.
c'est-à-dire les petits d'Inanès. Quant à ces interprètes bibliques, ils soulignent ici que l'ânesse symbolise la nation juive. Depuis longtemps assujetti et habitué au joug de la loi, parce que cette ânesse était liée. Les non-juifs, une fois de plus, sont aussi symbolisés par l'anneau, sur lequel aucun homme n'était jamais monté. Alors on nous dit que Christ s'installa d'abord sur l'ânesse pour cette raison précise. Il était approprié pour lui de commencer avec les Juifs et puis il se tourna vers l'anneau car il était prévu qu'il exerce son autorité sur les non-Juifs par la suite. Bien que le récit de l'Évangile selon Matthieu laisse à croire que Jésus ait chevauché tous les deux animaux, d'autres évangiles indiquent que seul l'anneau a été utilisé par notre Seigneur. Mais les rois, comme nous le savons dans ce monde, ils possèdent un pouvoir que les simples citoyens ne possèdent pas. Ils ont le contrôle sur les ressources terrestres, y compris sur les habitants qui y résident dans les royaumes. Les rois sont un peu différents des présidents des nations. Contrairement aux présidents que nous élisons et nous pouvons les révoquer, les rois ne peuvent jamais être destitués, car ils naissent rois. Voilà pourquoi quand Pilate a demandé à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Mais tu l'as dit, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Jean chapitre 18, verset 37. En d'autres termes, Jésus voudrait dire qu'il est né roi. Il est né roi. Et il est venu témoigner, il est venu parler, adresser, parler la vérité aux autorités de ce monde, leur dire la vérité. Ô peuple de Dieu, nous savons bien que le règne de Jésus diffère de celui des rois terrestres, il détient même le plus grand pouvoir sur l'univers que lui-même a créé. Avez-vous observé que dès l'envoi de ses disciples à Bethphagé, le roi Jésus a indiqué qu'il trouverait aussitôt qu'ils entreraient au village un ânon avec sa mère bien attachée et que personne ne les empêcherait de les détacher et les amener. Il dit même, si quelqu'un osait même vous demander ou osait même de vous empêcher. Si quelqu'un osait le faire, non, il ne pouvait même pas le faire. Dites-lui seulement ceci, que notre maître a besoin de ça. Oh, le roi de l'univers. Ainsi, Jésus a non seulement prouvé sa divinité, mais aussi son autorité, car il voit les choses invisibles à nos propres yeux avec une clarté parfaite. Lui qui est venu de l'éternité passée a le contrôle sur l'éternité à venir. Voilà pourquoi il est même capable d'incliner le cœur de ceux qui détiennent les biens de ce monde dont nous avons besoin. Il est capable de dire un mot et tout va se soumettre. Il dit, si on vous posait des questions telles que, où amenez-vous ces animaux? Vous allez leur dire que le Seigneur en a besoin. Mais il savait bien que personne n'allait poser de telles questions. Parce que c'est lui, notre Dieu. Et c'est de lui que nous tenons toutes choses. Les voitures que vous avez appartiennent à notre Dieu. Toutes les maisons que vous avez, même celles en étage, appartiennent à notre Dieu. Les enfants que vous avez appartiennent à notre Dieu. Les champs que vous avez appartiennent à notre Dieu. Toutes les fermes que vous avez appartiennent à notre Dieu. Vos compagnies ou vos entreprises que vous avez créées là appartiennent à notre Dieu. Oui, il est le roi de l'univers. Il est vrai que les disciples étaient inconnus dans ce village-là. Et de plus, il y avait raison de craindre qu'ils soient accusés de voleurs. Mais les disciples ont fait une bonne chose ici. Ils ont obéi. Ils sont allés en se fiant au commandement et à la promesse de Jésus que « Allez, prenez-les, amenez-les-moi. Déliez-les, amenez-les-moi. » Les disciples de Jésus aujourd'hui, c'est qui? C'est toi ou c'est vous et moi? Nous sommes des disciples de Jésus aujourd'hui. Apprenons également par l'exemple de Jésus à avancer malgré toutes sortes de difficultés afin de rendre au Seigneur l'obéissance qu'il exige de nous. Quand il supprimera les obstacles, il va supprimer les obstacles, il ouvrira les chemins et ne permettra pas que nos efforts soient vains pour le travail que nous sommes en train de faire pour son royaume. Croyez que tout ce dont nous avons besoin pour le royaume, il nous le donnera. Au verset 8 du texte de Matthieu chapitre 21, nous apprenons qu'au moment où Jésus s'apprêtait à entrer à Jérusalem, il y avait une très grande multitude. Ce sont les gens, selon les évangélistes, qui reconnaissaient le Christ comme leur roi. Il est important ici d'ajouter que ce sont des hommes et des femmes ordinaires, voire même obscurs, que beaucoup de gens ne connaissent pas, par opposition aux grands hommes de nos villes, aux grands hommes peut-être qui habitaient à Jérusalem. Mais ceux-ci sont des hommes ordinaires. Et ce sont eux qui coupèrent des branches d'arbres ou des palmiers pour décorer la route. Les femmes ici, ordinaires, elles aussi jetèrent leurs pagnes sur la route. Elles ont délié les pagnes de leurs hanches pour jeter ça sur la route pour que le roi Jésus puisse marcher dessus. Ils accomplissent toutes ces actions spontanément. Cela ne veut pas dire qu'on leur avait dit une semaine avant, deux semaines avant que le roi va passer par ici. Non. Mais poussés par le Saint-Esprit, ils ont honoré leur roi, car ils ne savaient même pas que Jésus venait. Ô peuple de Dieu, devons-nous nous étonner d'entendre que ces jeunes hommes qui coupaient des branches d'arbres pour décorer la route, ils sont semblables, ils ressemblent des fois aux jeunes gens dans nos quartiers que nous considérons comme des fauteurs ou des faiseurs, des causeurs de troubles dans nos quartiers. Ils n'étaient pas différents. Mais, souvenez-vous même que ces jours-ci, alors que notre Seigneur est maintenant assis à la droite de notre Père au ciel, notre Seigneur Jésus, même jusqu'à ces jours, il est en train de mandater depuis son trône céleste des hommes obscurs, des hommes ordinaires comme moi et vous, Il est en train de les commander. Il est en train de les utiliser pour son travail. Ce sont eux qui peuvent encore célébrer son nom dans ce monde. Oui, peuple de Dieu. On ne pense pas qu'il soit impossible pour que des gens puissent vraiment réaliser la grandeur, la valeur du royaume. Et on nous parle de ces gens ici, ordinaires, à Jérusalem, ou à l'entrée même de Jérusalem, qui ont vite reconnu, que ça c'est notre roi. Et les autres peuvent le négliger. Nous, nous n'allons pas le négliger. Nous allons faire tout pour l'accueillir en tant que roi. C'est pourquoi le Seigneur a dit, vraiment je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Matthieu chapitre 21, verset 31. Ils acclamaient leur roi en les suivant et en proclamant « Hosanna au fils de David ». Comment le peuple, apparemment non instruit, savait-il que Jésus revendiquait le trône de David? Est-ce que ce sont les disciples qui leur auraient murmuré à l'oreille que celui-ci que vous voyez, il réclame maintenant le trône de David, il est descendant de David? Et puis il n'est pas connu du tout. Il n'habite pas Jérusalem, il vient de la Galilée. C'est facile à penser qu'il n'est pas de cette contrée-là. Il n'appartient pas tellement à la famille de David. Mais comment le peuple l'a-t-il su? Les gens, oui bien sûr, étaient en train de réciter une prière que David avait enseignée au peuple. Et cette prière pouvait se réciter ou était psalmodiée. Pendant cette période, parce que c'était la période de la Pâque, les pharisiens aussi, ils savaient réciter cette prière et ils marchaient comme ça jusqu'au temple de Jérusalem en train de réciter les psaumes, que ce soit le psaume 18, 118, que ce soit le psaume 116, que ce soit le psaume 117. Et ce psaume 118, au 25e, au 26e vers, nous lisons ceci. Sauve-nous maintenant. Je te prie, ô Seigneur, ô Seigneur, je te prie, envoie maintenant la prospérité. Oh, quelle prière! Ils étaient en train de faire cela, mais ils ne se rendaient pas peut-être compte. Les pharisiens eux-mêmes étaient en train de citer et de psalmodier et de cette façon-là. Mais ils ne savaient pas de quoi ils parlaient, parce que c'est lui qui était au milieu d'eux. C'est celui-là, le Seigneur, qu'ils étaient en train de prier, mais le Seigneur était au milieu d'eux pour sauver le peuple d'Israël et sauver le monde. Le Seigneur était au milieu d'eux, il leur avait amené la prospérité, il leur avait amené la bénédiction. Oui, même la prière que notre Seigneur avait enseignée lui-même à ses disciples peu avant partage presque le même contenu de ce psaume 118. Parce que dans cette prière, nous disons aussi que ton royaume vienne, que ton règne vienne. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous voulons que tu descendes maintenant, notre Dieu. Nous voulons que les idoles soient renversées. Nous voulons que les païens cessent avec leurs activités. Nous voulons que tu puisses détruire les œuvres du diable. Nous voulons que maintenant les gens puissent commencer à te connaître et à te respecter. Nous voulons que là où il y avait des ténèbres, qu'il y ait la lumière. Nous voulons que les choses changent. Tu es le roi de l'univers. Amène ton royaume au milieu de ton peuple. C'est cela que nous disons à Dieu quand nous faisons la prière de notre Père et quand nous invitons son règne de venir. Nous sous-entendons tout cela. Oui, de plus, lorsque nous prions, Nous prions Dieu de maintenir son fils comme roi. Nous prions reconnaissant aussi que son royaume n'a pas été érigé par les mains des hommes et qu'il n'est pas soutenu par la puissance des hommes comme les royaumes de ce monde. Mais son royaume demeure invincible grâce à la protection céleste. Qui peut faire tomber le royaume de Dieu? Qui peut écrouler le royaume de Dieu? Personne. L'évangéliste Marc, quant à lui, rapporte que la foule était en train de crier, disant, « Béni soit le royaume de notre père David, qui vient au nom du Seigneur. » Alléluia. Béni soit le royaume de notre père David. Et nous savons que notre Seigneur, notre Dieu, avait promis qu'il serait le libérateur d'Israël et avait désigné comme moyen la restauration du royaume de David par son Christ. Nous avons déjà lu par le passé beaucoup de versets comme cela. Même quand l'ange Gabriel est apparu à une jeune fille appelée Marie, nous avons dit qu'il lui a dit que celui-là qui sera né, cet enfant-là sera appelé le Fils de Dieu. Et à lui, on a confié le trône de David. Le trône de David, c'était un trône éternel. Mais David n'était pas éternel. On parlait de la descendance de David. Et Jésus, c'est la descendance de David. Jésus a réclamé ce trône. Il est monté sur son trône. C'est ce trône sur lequel il est monté, le trône de David. Il sera sur ce trône pour toujours. Il sera sur ce trône, c'est un trône qui n'a pas de fin. Il sera assis sur ce trône pour l'éternité. Il n'y aura pas un autre roi. Quand tous les rois de ce monde vont tomber, le seul roi qui va rester debout, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le fils de David. Ô peuple de Dieu, et comment le savoir? Matthieu nous indique que Jésus se présente en tant que roi doux et humble. En d'autres termes, il n'est pas un combattant. Il cite aussi, Matthieu cite Zacharie chapitre 9, verset 9. Et comme nous pouvons le voir, l'animal que Jésus a choisi pour s'asseoir dessus à son entrée à Jérusalem, c'est un animal humble, une humble bête de somme ou de transport, si vous voulez. Ce n'est pas un cheval royal. Le roi se promenait sur les chevaux. Lui, il n'est pas venu sur les chevaux. Et quand il se mettait sur les chevaux, il chevauchait ses derniers. C'était un signe de la guerre, le plus souvent. Mais lui, il n'était pas venu pour la guerre. Il n'est pas venu pour une conquête militaire. Parce qu'il a apporté la paix dans ce monde. Oui, Jésus est le roi de l'univers. L'Exode 40 fait écho à la Genèse, chapitre 1 et verset et chapitre 2. Il s'agit ici de la consolidation des promesses faites à Abraham, selon lesquelles toutes les familles de la terre seront bénies à travers sa descendance. Et la descendance, c'est qui? C'est Jésus. C'est donc, parle Exode. Exode nous dit, Dieu, sauvant son peuple et venant habiter au milieu de ces derniers, afin qu'il puisse être son sacerdoce royal.
Le livre d'Exode se termine bien avec la construction du tabernacle qui montrait que Dieu a voulu mener un descendre pour vivre au milieu de son peuple. Et ce qui se passe ici, dans ces derniers voyages, dans cette dernière semaine de Jésus sur la terre, avant sa mort, c'est que c'est une forme d'exode où Dieu est venu pour habiter à Sion. Dieu est venu pour habiter parmi son peuple. Et nous voyons ici, c'est que c'est les récits dans lesquels Jésus s'inscrit. Il s'inscrit dans les récits selon lesquels il est venu vers son peuple qui autrefois était désigné pour être un sacerdoce royal. Mais il n'y a pas de sacerdoce royal sans roi. Jésus est venu parmi son peuple, comme ce roi-là. C'est le reçu dans lequel il est en train de s'inscrire. Et n'oublions pas que nous sommes pendant la Pâque. Pâque n'était pas seulement une histoire. Pâques n'était pas seulement cela. Pâques, c'était une fête avec une liturgie. C'était une fête avec des hymnes. C'était une fête avec des théâtres et des actions dramatiques. C'était une histoire qui était centrée sur les temples. C'était une histoire qui était centrée sur les repas, parce que les gens mangeaient. Et c'était une histoire qui était centrée sur la prière, parce que les gens priaient pour que le royaume de Dieu arrive. Les Juifs priaient pour que le royaume de Dieu arrive. Mais lorsque Jésus est venu à Jérusalem, en cette dernière semaine de sa vie, beaucoup de choses se sont produites. Il a purifié le temple. Il a amené ses disciples pour un repas quelque part. Il disait quelque chose de puissant à travers tous ces symboles combinés ensemble. Il disait que c'était le moment. Il leur faisait voir que c'était maintenant l'endroit. Il était en train de leur faire voir que c'était effectivement le temps de la pour que le royaume se manifeste. Donc c'était le temps de la manifestation de la Pâque réelle. La Pâque qui était en train de se dérouler parmi les Juifs trouvait sa signification en lui. C'était un nouvel exode. Le peuple en train de quitter l'esclavage. Le peuple libéré par Moïse. Jésus, c'était un autre Moïse. Jésus, c'était un autre Josué qui libérait le peuple de leur esclavage. C'était un nouvel exil. Le royaume de Dieu était en marche, mais le peuple ne le savait pas. Le centre de ce royaume ne sera plus ce temple de bois et de pierre à Jérusalem. Mais c'est un autre type de temple maintenant. D'ailleurs, Jésus, depuis un temps, s'est comporté tout au long de sa carrière publique comme s'il était ce temple-là en personne. Si quelqu'un voulait le pardon des péchés, si quelqu'un voulait la guérison, tous ces gens-là, ils n'avaient plus besoin d'aller au temple de Jérusalem. Ils venaient vers Jésus pour leur guérison. Ils venaient vers Jésus pour le pardon de leurs péchés. Alors, nous voyons ici que Jérusalem était en train de recevoir des temples, les temples de bois et de pierre.
Et le temple qui était une personne, mais étant une petite ville, cette ville de Jérusalem n'était pas préparée pour accommoder les deux à la fois. Jésus et le temple de Jérusalem. Aux pharisiens, il avait déjà dit, il sépare les doigts de Dieu et je chasse les démons. Sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Comment est-ce qu'il allait manifester ce royaume-là? C'était la question que les Juifs se posaient parce qu'ils ne savaient pas si c'était lui le Messie ou il fallait attendre un autre. Mais Jésus avait sa propre vision de son royaume. C'est que son royaume à lui, n'était pas un royaume comme le royaume de ce monde. Ce qui était au cœur de ce royaume, les Juifs se demandaient, mais après tout, qu'est-ce qu'un Messie peut faire pour nous? Les Juifs avaient différentes réponses à cette question-là. Dépendant de leur tradition, s'ils étaient sadducéens ou s'ils étaient zélotes ou s'ils étaient pharisiens. Mais au cœur de tout cela, on obtenait presque les mêmes réponses. On disait que le Messie devait accomplir les Écritures telles qu'annoncées par Ésaïe, annoncées par Ézéchiel, annoncées par Daniel. Le Messie doit vaincre leurs ennemis, les pharaons et les empereurs de ce monde. Le Messie doit reconstruire pour eux le temple de Jérusalem, mais surtout il doit purifier ce temple-là parce que il voulait que le Dieu d'Israël puisse revenir dans ce temple et y vivre dans la gloire. C'était toujours l'Exode 40, Ézéchiel 43, qui venait en leur mémoire quand il parlait du Messie. Il doit établir le règne de Dieu, non seulement sur Israël, mais le Messie doit établir le règne de Dieu dans le monde entier. C'était une vision d'un renouvellement cosmique radical. Mais les gens n'ont pas compris la vision que Jésus avait pour Israël et pour le monde. Les gens ont transformé ça en une simple religion. C'est l'histoire d'un monde libéré que Jésus a amené. C'est l'histoire des êtres humains libérés. Jésus a amené une histoire, encore une fois. Nous avons transformé la liberté que Jésus nous a amenée en une simple leçon que nous donnons aux enfants de l'école du dimanche. Mais Jésus croyait que c'était sa vocation de libérer Israël et de libérer le monde une fois pour toutes. Il devait libérer Israël, il devait libérer le monde des mains de ses ennemis. Et le plus grand ennemi étant Satan et ses démons, il devait mettre en place un nouveau tabernacle, le lieu de la résidence de Dieu. Un lieu non bâti avec de pierres et de bois. Mais Jésus est venu amener un nouveau tabernacle fait de pierres vivantes, vous et moi. Mais lui étant l'ultime fils de l'homme, l'ultime fils de Dieu, qui a souffert entre les mains des hommes, mais c'est lui qui nous dirige. Malgré sa souffrance, il serait exalté. Après sa résurrection, il a été reçu au ciel, à la droite de sa majesté, dans les lieux célestes. N'oubliez jamais que lorsque Jésus a voulu expliquer à ses disciples ce qui signifiait sa mort imminente, il ne leur a pas donné une théorie comme un professeur à l'université. Voulant leur expliquer sa mort et sa vie, sa résurrection, il leur a donné un repas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le royaume de Dieu est une nouvelle réalité qui est venue sur cette terre. Nous devons la manger. Nous devons nous nourrir du royaume de Dieu. Nous devons vivre du royaume de Dieu comme quelqu'un qui mange les repas et vit de ses repas. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen.